Galen ne fera rien contre toi. Même pas comploter dans ton dos, mais le cerveau, dans cette fine équipe, c'est Berelaine. Depuis l'âge de 16 ans, elle tient Théar à distance de Mayenne en jouant les Théariens contre les Ilianiens. Cette femme sait manipuler les gens. Galen ne jure que par l'action. C'est un bon guerrier, mais il n'a qu'une corde à son arc, et parfois, il attaque sans prendre la peine de réfléchir.
Je me suis fait cette réflexion au sujet de ces deux-là, approuva Perrine. Au moins, Berelaine revenait avec une messagère d'Aliandre. S'il s'était agi d'une nouvelle servante, elle n'aurait pas galopé ainsi dans le camp. Mais pourquoi la reine, pour répondre, avait-elle besoin d'une messagère ?
Je vais voir si les nouvelles sont bonnes, Elias. Plus tard, nous parlerons de ce qui nous attend au sud, et tu feras la connaissance de Feyl.
La fosse de la perdition se trouve au sud, mon garçon,
lança Elias dans le dos de Perrine.
Ou en tout cas, aussi près du sud qu'on peut s'y attendre au-dessous de la flétrissure.
Perrine crut de nouveau entendre les lointains roulements de tonnerre à l'ouest. Un orage serait une agréable nouveauté. Sous le pavillon, Bréane était en train de présenter aux visiteurs un plateau sur lequel reposait une coupe d'eau parfumée à la rose et de petites serviettes très pratiques pour se nettoyer le visage et les mains. S'inclinant avec encore moins de grâce que son ami, Maegdin proposait des coupes de ponche. À l'odeur, on eût dit qu'il était parfumé avec les dernières myrtilles desséchées, tandis que Lini s'affairait à plier les capes des nouveaux venus. Perrine trouva étrange la façon dont Feyl et Berelaine flanquaient l'inconnu, Anoura se tenant dans son dos comme si elle entendait la protéger. Dans la force de l'âge, un filet vert retenant les longs cheveux noirs qui lui tombaient quasiment jusqu'à la taille, la femme aurait été fort jolie, sans son nez démesurément long. Et si elle avait adopté un maintien moins hautain, peut-être. Plus petite que Feyl et Berelaine, elle réussissait malgré tout à regarder Perrine de haut, l'étudiant sans vergogne, des pieds à la tête. Et contrairement à la plupart des gens, elle ne sursauta pas en découvrant ses yeux.
« Majesté, »
dit Berelaine de sa voix la plus protocolaire.
« Puis-je vous présenter le seigneur Perrine Aibara de Deux-Rivières, au royaume d'Andorre, ami personnel et éminent émissaire du dragon réincarné ?»
Dame Longnez hocha vaguement la tête, et Berelaine enchaîna.
« Seigneur Perrine, veux-tu bien saluer Aliandre Marita Kigarin, reine de Gealdan, bénie de la lumière et protectrice du mur de Garen, qui se réjouit de t'accorder cette audience ?»
Debout dans un coin du pavillon, Galen ajusta le bandeau qu'il portait sur un œil, puis leva son gobelet de ponche à l'intention de Perrine, avec un sourire triomphant qui en disait plus long qu'un discours. Pour une raison connue d'elle seule, Feyl foudroya Berelaine du regard. Perrine, lui, sentit sa mâchoire inférieure lui tomber sur la pointe des bottes. Aliandre en personne ? Devait-il s'agenouiller ? Décidant que non, après une trop longue réflexion, il opta pour une courbette. Par la lumière, une reine ? Comment se comportait-on avec une telle femme ? Surtout quand elle déboulait à l'improviste et sans escorte. La robe d'équitation verte d'Aliandre était en laine des plus ordinaires, et elle n'arborait pas l'ombre d'un bijou.
« Les récentes nouvelles étant ce qu'elles sont, »
dit Aliandre.
« J'ai cru bon de venir te voir, seigneur Aibara. »
Un ton calme, un visage impassible, des yeux vifs. Et qui ne ratait rien, aurait juré Perrine. Et s'il se trompait, eh bien, il aurait mérité d'être un bonnet de Bac-sur-Tarren. Avant de savoir où il mettait les pieds, mieux valait redoubler de prudence.
« Tu n'en es peut-être pas informé, »
continua la reine.
« Mais il y a 4 jours de ça, Liliane est tombée sous la coupe du dragon réincarné. Que son nom soit béni dans la lumière. Il s'est emparé de la couronne de laurier, la rebaptisant couronne d'épée, si j'ai bien compris. »
Prenant une coupe sur le plateau de Maegdin, Feyl murmura.
« Et il y a 7 jours, les Séanchaniens ont prié Boudard. »
Même Maegdin n'entendit pas. Si Perrine s'était laissé aller, il aurait sursauté. Pourquoi Feyl lui communiquait-elle cette information, au lieu d'attendre qu'Aliandre, de qui elle la tenait, s'en charge? À haute voix, il répéta la phrase de sa femme, d'un ton dur, mais c'était la seule solution pour ne pas bredouiller. Et Boudard également, 7 jours plus tôt, soit au moment où Grady et les autres avaient vu le pouvoir de l'unique se manifester dans le ciel? Une coïncidence peut-être. Sinon, il aurait encore préféré que ce soit l'œuvre des rejetés. Sourcils froncés, Anoura jeta un drôle de regard à Perrine, et Berelaine tressaillit de surprise mais se reprit très vite. Au moment où les deux femmes étaient parties pour Bétal, Perrine ne savait rien au sujet des Boudards. Et elle ne l'avait pas oublié. Aussi impassible que la sœur grise, Aliandre se contenta de hocher la tête.
« Tu sembles très bien informé, seigneur.
dit-elle en approchant du jeune homme.
« Avec le trafic ralenti sur le fleuve, je doute que cette nouvelle ait déjà atteint Jeanna. Moi-même, je l'ai apprise il y a quelques jours seulement. Beaucoup de marchands me tiennent lieu d'informateur. À mon avis, c'est avec l'espoir que j'intercéderai en leur faveur devant le prophète, si l'occasion se présente un jour. »
Perrine put enfin capter l'odeur d'Aliambre. Aussitôt, son opinion sur elle changea, et pas dans le mauvais sens. Extérieurement, cette femme était un mur de glace indestructible. En réalité, elle doutait, et la peur lui nouait les entrailles. Dans cet état, Perrine aurait été incapable de jouer la comédie comme elle le faisait.
« Un homme bien informé en vaut deux, »
répondit-il distraitement.
« Que la lumière me brûle, »
pensa-t-il.
« Je dois prévenir Rand. »
« Au Saldaïa, »
intervint Feil.
« Nous trouvons aussi que les marchands sont une mine d'informations. Ils sont au courant de tout ce qui se passe à des milliers de lieues de distance, des semaines avant que la nouvelle commence à se répandre. »
Une façon de sous-entendre que Perrine avait appris par ce biais la chute des Goudards. Alors que sa femme ne le regardait pas, le jeune homme comprit qu'elle lui parlait tout autant qu'à Aliandre.
« Rand sait, »
disait-elle à demi-mot. Et de toute façon, il était impossible de le contacter en secret.
« Fail voudrait vraiment que je... »
Non, c'était impensable. Soudain, Perrine s'avisa qu'il avait perdu le fil de la conversation.
« Excusez-moi, Aliandre, »
dit-il.
« J'ai perdu le fil de la conversation. Je pensais à Rand, le dragon réincarné. »
Bien sûr que c'était impensable. Voyant que tout le monde le regardait, y compris Lini, Megdine et Bréan, Anoura écarquillant les yeux, et Galen en étant bouche bée de stupéfaction, Perrine se demanda pourquoi il était l'objet de toutes les attentions. Puis la réponse lui traversa l'esprit. Il venait d'appeler la reine par son prénom. Perrine prit une coupe sur le plateau de Megdine, qui se redressa trop vite, manquant la lui arracher de la main. Faisant distraitement signe à la servante de reculer, il essuya sa main mouillée sur le devant de sa veste. Se concentrer, voilà ce qu'il devait faire. Son esprit ne devait pas partir dans 9 directions différentes. Qu'importaient les divagations d'Alias ? Fail n'aurait jamais voulu que... Non, se concentrer. Aliandre se remit très vite de sa surprise. En fait, elle avait été la moins étonnée du lot, et son odeur était restée la même.
« Seigneur Aibara, je disais que venir te voir en secret m'a semblé la bonne démarche. Le seigneur Talabin me croit en train de méditer dans ses jardins, alors que j'en suis sorti par une porte dérobée. Depuis que nous sommes partis de Bétal, je me fais passer pour la servante d'Anoura Sedai. Quelques-uns de mes soldats m'ont vu, mais avec ma capuche relevée, ils ne m'ont pas reconnu. »
Aliandre passa le bout des doigts sur la laine de sa robe d'équitation, puis elle eut un petit rire, au son glacial tellement opposé à ce qu'indiquait son odeur.
« Les temps étant ce qu'ils sont, »
approuva Perrine.
« La discrétion était sans doute la plus sage solution, mais vous devrez vous montrer au grand jour à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive. »
Courtois, mais sans tergiverser, c'était la bonne tactique. Une reine aurait détesté perdre son temps avec un beau parleur débitant des fadaises. De plus, pas question de décevoir une nouvelle fois Fail en se comportant comme un bouseux.
« Mais pourquoi être venu ? Il aurait suffi de me faire parvenir une lettre destinée à Rand, ou de confier votre réponse à Berylaine. Majesté, allez-vous soutenir ouvertement Rand ou non ? Quelle que soit la réponse, vous regagnerez Bétal saine et sauve. N'en doutez pas un instant. »
Un bon point, cette remarque. Quoi qui puisse effrayer cette femme, être seule sous ce pavillon ne devait pas l'aider à se sentir plus tranquille. Sirotant son punch, Fail faisait mine de se concentrer sur Aliandre, mais elle jetait sans cesse des coups d'œil furtifs à son mari. Berylaine ne cherchait pas à tromper son monde, le regard rivé sur le visage de Perrine. De son côté, Anoura semblait pensive et inquiète. Ces femmes croyaient-elles toutes qu'il allait commettre un nouvel outrage verbal à la dignité d'une reine ? Au lieu de répondre aux questions importantes, Aliandre fit une déclaration percutante.
« La première dame m'a longuement parlé de toi, Perrine Aibara, et du dragon réincarné. Que la lumière le bénisse. »
Une formule creuse que la reine débitait sans y penser.
« N'étant pas en mesure de le voir avant d'arrêter ma décision, j'ai décidé de prendre au moins ta mesure, Seigneur Aibara, pour juger un homme, connaître ceux qui parlent en son nom est précieux. »
Baissant les yeux sur sa coupe, Aliandre continua à observer Perrine à travers ses cils. Chez Berylaine, ce comportement aurait été de la provocation. Aliandre, elle, regardait prudemment le loup qui se tenait devant elle.
« J'ai vu tes étendards, »
ajouta-t-elle.
« La première dame ne les avait pas mentionnés. »
Perrine ne put s'empêcher de plisser le front. Berylaine avait beaucoup parlé de lui à Aliandre. Mais pour lui dire quoi, exactement ?
« Ces étendards sont faits pour être vus. »
dit le jeune homme, contrôlant mal sa colère. Berelaine, elle, était le genre de femme après laquelle il fallait crier.
« Mais croyez-moi, la résurrection de Manéthérène n'est pas au programme. »
Voilà. Son ton était aussi neutre que celui de la reine.
« Quelle est votre décision ? Rand peut faire venir ici, et presque en un clin d'œil, 10 000 ou 100 000 soldats. »
Et il allait peut-être devoir le faire. Amador et Eboudar entre les mains des Séanchaniens. Combien de Séanchaniens, exactement ? Avant de répliquer, Aliandre but une gorgée de ponche, et elle éluda de nouveau la question.
« Comme tu le sais, il y a des kyrielles de rumeurs. Même les plus extravagantes peuvent être vraies. Quand le dragon se réincarne, quand des étrangers prétendent être l'armée d'Arthur de retour chez elle, et quand la tour se dévise, tout est possible.
« Cette affaire regarde les Aes Sedai !»
intervint Anoura.
« Et personne d'autre !»
Berelaine foudroya du regard sa conseillère, qui fit mine de ne pas s'en apercevoir. Aliandre tressaillit et se tourna à demi vers la sœur. Même une reine n'aimait pas entendre Aes Sedai lui parler sur ce ton.
« Seigneur Aibara, le monde est sans dessus-dessous. On m'a même rapporté que des Aiel ont pillé un village, ici, au Gealdan. »
Aliandre, compris Perrine, n'était pas seulement inquiète parce qu'elle avait peut-être offensé une sœur. Il y avait quelque chose en rapport avec lui. Attendait-elle qu'il la rassure ?
« Les seuls Aiel présents au Gealdan sont avec moi, »
dit-il.
« Et si les Séanchaniens sont peut-être bien les descendants d'Arthur, El de Faucon ? Celui-ci est mort depuis 1000 ans. Rand a déjà repoussé ses envahisseurs, et il recommencera. »
Malgré ses efforts pour oublier, Perrine se souvenait aussi bien de Falm que des puits de Doumaï. À coup sûr, les Séanchaniens ne pouvaient pas être assez nombreux pour prendre Amador et Eboudar, même avec leur Daman. Selon Balwer, il y avait aussi des soldats du Tarabon.
« Et vous vous réjouirez d'apprendre que les Aes Sedai dissidentes soutiennent Rand. Enfin, le soutiendront bientôt. »
Selon Rand, ses quelques sœurs ignorant où aller finiraient par se réfugier auprès de lui. Perrine n'en était pas si sûre. Au Gealdan, on racontait qu'une armée voyageait avec ses Aes Sedai. Bien sûr, dans ses récits, il y avait plus de renégates que d'Aes Sedai de tous bords dans le monde. Mais, au fond, c'était lui qui avait besoin d'être rassuré.
« Nous devrions nous asseoir, Majesté, pour vous aider à choisir. Je veux bien répondre à toutes vos questions, mais un peu de confort ne me fera pas de mal. »
Tirant à lui un des fauteuils pliables, Perrine se rappela au dernier moment qu'il ne devait pas se laisser tomber dedans. Il y eut quand même un concert de grincements. Lini et les deux autres servantes vinrent disposer des sièges en cercle autour du sien, mais aucune des quatre femmes n'en approcha. Aliandre continuait à le regarder, Anoura, Feil et Berelaine observant la reine. Galen ne vint pas non plus, mais il se resservit du ponche. Depuis qu'elle avait évoqué les marchands, Feil n'avait plus dit un mot. Berelaine se taisait, et Perrine lui en était reconnaissant, presque autant que de s'abstenir de lui faire de l'œil devant la reine. En revanche, un peu d'aide de sa femme ne lui aurait pas fait de mal. Quelques conseils. Dans des circonstances pareilles, elle savait 10 fois mieux que lui ce qu'il convenait de dire et de faire. Se demandant s'il devait se relever, Perrine posa sa coupe sur un guéridon et se tourna vers son épouse.
« Si quelqu'un peut lui montrer le bon chemin, »
dit-il.
« C'est bien toi. »
Feil en sourit d'aise, mais elle ne desserra pas les dents. Sans crier gare, Aliandre posa sa coupe sur son flanc droit, comme s'il y avait là une servante avec un plateau. Bondissant, Megdin arriva juste à temps pour réceptionner la coupe, en murmurant quelques mots que Feil ne parut pas avoir entendus. Un coup de chance, car elle était impitoyable avec les domestiques qui se permettaient des écarts de langage. Voyant la reine approcher de lui, Perrine fit mine de se lever. Mais à sa grande surprise, elle s'agenouilla devant lui et lui prit les mains. Avant qu'il ait compris ce qui se passait, elle serra si fort qu'il redouta que ce soit douloureux pour elle. Quant à lui, il ne lui semblait pas possible de se dégager sans lui faire mal.
« Avec la lumière pour témoin, »
dit la souveraine en regardant Perrine dans les yeux.
« Moi, Aliandre Marita Kigarine, je jure allégeance et fidélité au seigneur Perrine Aibara de Rivière, à présent et pour l'éternité, sauf s'il choisit de me délivrer de mon serment. Mon royaume et mon trône lui appartiennent, et je les remets entre ses mains. Voilà ce que je jure. »
Un lourd silence suivit, vite brisé par le petit cri de Galen et le bruit de sa coupe de vin tombant sur le tapis. De nouveau, Perrine entendit Feil murmurer des paroles que lui seul pouvait entendre.
« Avec la lumière pour témoin, j'accepte ton serment et je m'engage à vous protéger, toi et les tiens, des ravages de la guerre, des assauts de l'hiver et de tout ce que le temps peut nous réserver. Ton royaume et ton trône, je te les confie, car tu es ma fidèle vassale. Au nom de la lumière, voilà ce que j'accepte. »
Sans doute le rituel d'acceptation en vigueur au Saldaïa. Par bonheur, Feil était trop concentré sur son mari pour voir que Berylaine, hochant frénétiquement la tête, l'incitait à accepter le serment de la reine. Ces deux-là se comportaient comme si elles avaient prévu ce qui se passait. Anoura, en revanche, semblait aussi stupéfiée que Perrine. Comme un poisson, la bouche grande ouverte, qu'on viendrait de sortir brusquement de l'eau.
« Plaît-il ? »
demanda-t-il humblement, ignorant les murmures de Feil et les grognements de Berylaine.
« Que la lumière me brûle ! Je suis un fichu forgeron !»
Qui aurait juré allégeance à un forgeron ? Et de toute façon, les reines ne prêtaient pas ce genre de serment.
« Vous savez, il paraît que je suis un taverne. Dans une heure, vous risquez de changer d'avis. »«
J'espère bien que tu es un taverne, seigneur. »
Aliandre éclata de rire, mais sans être vraiment amusée. Puis elle serra encore plus fort les mains de Perrine, comme si elle craignait qu'il les lui retire.
« Je l'espère de tout mon cœur. Rien de moins ne sauvera le Gael'dan. J'ai pris ma décision dès que la première dame m'a dit pourquoi tu es ici. Te voir a renforcé ma détermination. Le Gael'dan a besoin d'une protection que je suis incapable de lui offrir. Mon devoir est donc de la chercher ailleurs. Tu peux la lui apporter, seigneur, tout comme le dragon réincarné. Que son nom soit béni par la lumière. Pour tout dire, c'est à lui que j'aurais juré allégeance, s'il était là. Mais tu es son émissaire. En prêtant serment devant toi, je le fais aussi devant lui. »
Aliandre prit une grande inspiration et ajouta.
« S'il te plaît, accepte. »
Ses yeux brillaient de peur à présent, et elle empestait le désespoir. Perrine hésita encore. C'était encore mieux que ce qu'espérait Rand, certes, mais Perrine Aibara n'était qu'un fichu forgeron. Même pas un apprenti. S'il jouait le jeu avec Aliandre, pourrait-il encore se considérer comme tel ? Un simple forgeron. Alors que la reine l'implorait du regard, il se demanda si les taverennes réussissaient à s'influencer eux-mêmes, s'entraînant vers les ennuis.
« Avec la lumière pour témoin, moi, Perrine Aibara, j'accepte ton serment et... »
Quand il eut fini de réciter les mots que lui avait soufflé Feil, Perrine constata que sa gorge était sèche comme de vieux parchemins. À présent, il était trop tard pour s'arrêter et réfléchir. Aliandre soupira de soulagement et lui embrassa les mains. Plus embarrassé que jamais au cours de sa vie, il se leva et la fit se redresser devant lui. Et après, qu'était-il censé faire ? Souriant de toutes ses dents, Feil ne daigna pas lui souffler de suggestions. Rayonnante aussi, Berylaine semblait soulagée, comme si on venait de la sortir d'une maison en flammes. Perrine paria qu'Anoura allait parler. En toutes occasions, les Aes Sedai avaient un discours dans leurs manches, surtout quand ça leur permettait de reprendre les choses en main. Mais la sœur grise tendit simplement sa coupe à Megdin, afin qu'elle la lui remplisse. Anoura fixait Perrine avec une expression indéchiffrable. Megdin aussi, à tel point qu'elle ne releva pas la carafe à temps, faisant déborder du punch sur la main de l'Aes Sedai. Sursautant, Anoura baissa les yeux sur la coupe, ébahie comme si elle avait oublié jusqu'à son existence. Feil se rembrunit, Lini aussi, et Megdin s'empara d'un morceau de tissu pour sécher la main de la sœur, tout en marmonnant entre ses dents, bien entendu. Si elle captait un jour ses imprécations, Feil risquait de faire un malheur. Perrine comprit qu'il n'enchaînait pas assez vite. Aliandre semblait attendre quelque chose, mais quoi ?
« Maintenant que j'en ai terminé ici, il faut que je trouve le prophète. »
Non, trop direct. Décidément, il n'était pas taillé pour traiter avec des nobles, et moins encore avec des têtes couronnées.
« Je suppose que vous voulez retourner à Bétal avant qu'on se soit aperçu de votre absence.
La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, le prophète du Seigneur Dragon était à Abila, une grande cité en Amadicia, à environ 40 lieues au sud. »
Perrine plissa le front et se força tout de suite à cesser. Balwer avait donc raison. Sur un point, peut-être pas sur tous, mais ça justifiait de prêter une oreille attentive à ce qu'il avait à dire sur les capes blanches. Et les Séanchaniens, combien de tarabonais les accompagnaient ? Feil se glissa à côté de son mari, lui posa une main sur le bras et sourit à Aliandre.
« Mon cœur, tu ne peux pas la renvoyer alors qu'elle vient juste d'arriver. Laisse-nous donc converser tranquillement à l'ombre, avant qu'elle doive s'en retourner. Je sais que tu as d'importantes tâches en cours. »
Non sans effort, Perrine parvint à ne pas faire grise mine. Qu'est-ce qui pouvait être plus important que la reine du Gael'dan ? Très certainement rien dont on consentirait à le laisser s'occuper. Mais à l'évidence, Feil voulait s'entretenir avec Aliandre hors de sa présence. Avec un peu de chance, elle lui dirait pourquoi un jour. Elias croyait connaître les femmes du Saldaïa, et c'était peut-être vrai. mais Perrine, lui, connaissait sa femme. Quand elle entendait lui cacher quelque chose, tenter de découvrir de quoi il s'agissait était peine perdue. Et si par hasard il y parvenait, il ne fallait surtout pas s'en vanter. En principe, quitter une reine devait exiger autant de fariboles protocolaires que lorsqu'on la rencontrait. Mais il opta pour une simple courbette et de plates excuses pour son départ précipité. Aliandre s'inclina, assura qu'il lui faisait trop d'honneur, et l'affaire fut rondement bouclée. Perrine fit signe à Galen de le suivre. Si elle ne voulait pas de son époux, Fail ne désirait sûrement pas que ce type reste. Mais de quoi voulait-elle donc parler avec la reine? Une fois dehors, le seigneur Borgne flanqua dans le dos de Perrine une claque qui aurait fait vaciller un gaillard moins bien bâti.
« Que la lumière me brûle! N'avais jamais entendu une chose pareille! Maintenant, je pourrais dire que j'ai vu un taverne à l'œuvre! Pourquoi m'avez-vous demandé de sortir ?»
Soufflé par ce torrent de compliments, Perrine ne sut que répondre. Par bonheur, une diversion se présenta. Dans le camp des gardes-lés, des cris indiquaient qu'une querelle était en cours. Intrigués, les gardes de Rivière tendaient l'oreille, mais la colline les empêchait de voir quoi que ce soit.
« Pour commencer, allons jeter un coup d'œil là-bas. »
Une excellente façon de gagner du temps pour réfléchir. À ce qu'il dirait à Galen, bien sûr, mais à d'autres choses aussi. Un peu après le départ de Perrine, Fail informa ses domestiques qu'elle s'occuperait seule de ses invités. Voyant que Meigin contemplait fixement Aliandre, Lini la tira par la manche pour qu'elle se mette en mouvement. Pour la plus jeune des deux femmes, l'heure des réprimandes sonnerait plus tard. Posant sa coupe, Fail escorta les trois servantes jusqu'au rabat, comme si elle poussait devant elle un troupeau d'oies. Puis elle jeta un coup d'œil dehors. Perrine et Galen se dirigeaient vers le camp des gardes-lés. Excellent. Comme toujours, le gros des Tchafail n'était pas bien loin du pavillon. Croisant le regard de Par et Léane, Fail fit quelques gestes en gardant les mains au niveau de son ventre. Derrière elle, Berelaine et Aliandre ne s'apercevraient de rien. Dessinant un cercle, elle serra ensuite le poing. Aussitôt, les jeunes Théariens et Kérieniens se divisèrent par groupes de trois ou quatre et se dispersèrent. Moins élaboré que celui des promises, l'engage par geste des serfs de Fail était cependant efficace. En un clin d'œil, des fidèles de la jeune femme avaient encerclé le pavillon. Apparemment par hasard, tout en bavardant ou en jouant à des jeux de ficelle. Ainsi, personne n'approcherait à moins de 20 pas sans que Fail en soit averti. Dans tout ça, c'était Perrine qui l'inquiétait le plus. Dès l'arrivée d'Aliandre, elle s'était doutée qu'un événement capital allait se produire. Mais elle n'aurait pas misé un sou sur ce qu'il s'était réellement passé. Et le serment de la reine avait stupéfié Perrine. Alors, honnête comme il l'était, s'il lui prenait l'envie de revenir histoire de redire à Aliandre qu'elle pouvait encore changer d'avis, pourquoi pensait-il avec son cœur chaque fois qu'il aurait dû utiliser sa tête? Et avec sa tête quand c'était son cœur qui aurait dû parler? À cette idée, Fail éprouva un rien de culpabilité.
« Tu t'es déniché le drôle de serviteur, dirait-on ?»
fit Berelaine dans le dos de Fail. L'épouse de Perrine sursauta, car elle n'avait pas entendu la première dame approcher. Lini et les deux autres marchaient vers les charrettes, la vieille dame brandissant un index menaçant sous le nez de Meigdin. Berelaine regardait l'étrange trio s'éloigner. Toujours sur un ton ironique, elle reprit.
« La plus vieille semble connaître son métier, et pas seulement en avoir entendu parler à l'occasion. Selon Anoura, la fille qu'elle est en train de tancer est une naturelle. Très faible, mais ces femmes posent toujours des problèmes. Des histoires finiront par circuler sur elle, et tôt ou tard, elle s'enfuira. Avec les naturelles, il paraît que ça se termine toujours ainsi. Voilà ce qui arrive quand on prend à son service des chiens perdus sans collier. Ces gens me conviennent parfaitement, »
répliqua Fail. Cela dit, une longue conversation avec Lini s'imposait. Une naturelle ? Même faible, elle pouvait se révéler utile.
« J'ai toujours pensé que tu étais faite pour engager des domestiques. »
lâcha Fail. Berelaine sursauta, se demandant ce que signifiait cette remarque. Fine mouche, Fail ne commit pas l'erreur de montrer sa jubilation.
« Anoura, »
dit-elle,
« peux-tu nous isoler des oreilles indiscrètes ?»
Il y avait fort peu de chances que Séonide ou Massouri tentent de les espionner par le biais du pouvoir. Quand il apprendrait à quel point les matriarches brimaient les deux sœurs, Perrine risquait d'ailleurs d'exploser. Cela dit, les matriarches avaient pu apprendre cette technique. À l'évidence, elles pressaient les deux sœurs comme des citrons. La sœur grise hocha la tête, faisant cliqueter les perles de ses nattes.
« C'est fait, Dame Fail, »
dit-elle. Berelein eut une moue agacée. Très satisfaisant, ça. Avoir organisé la rencontre sous le pavillon de Fail, quelle audace! Ce forfait méritait un pire châtiment qu'une usurpation d'autorité envers sa conseillère. C'était mieux que rien. Des satisfactions enfantines, alors qu'il y avait des choses urgentes à traiter? Fail en convenait, mais comment faire autrement? Si elle ne doutait pas de l'amour de Perrine, elle ne pouvait pas traiter Berylain comme elle l'aurait mérité. Et ça la forçait à jouer à un jeu dont Perrine, bien trop souvent, était en quelque sorte le plateau. Et le trophée final, en tout cas aux yeux de Berylain. Si le jeune homme avait pu s'abstenir de se comporter parfois comme si c'était le cas. Fail chassa ses préoccupations de son esprit. Pour l'heure, elle avait un rôle à jouer, celui d'une épouse efficiente. À la mention d'une protection, Aliandre avait regardé pensivement Anoura. Ne pouvant plus douter qu'il allait s'agir d'une conversation sérieuse, elle dit cependant
« Ton mari est un homme hors du commun, Dame Fail. Ne sois pas offensée, mais j'ose dire que son apparence plutôt frustre cache un esprit acéré. Avec un voisin comme la Madicia, nous sommes contraints, au Géaldan, de jouer finement au Daes Daimar. Mais je n'ai jamais rencontré un adversaire qui me pousse à une décision aussi vite et aussi bien que le seigneur Aibara. Une menace indirecte par ici, un froncement de sourcils par là. Un homme hors du commun. »
Cette fois, Fail eut beaucoup de mal à cacher sa jubilation. Ces gens du Sud faisaient toute une affaire du grand jeu. Et Aliandre aurait sans doute été dépité d'apprendre la vérité. Perrine disait simplement ce qu'il pensait, trop naïvement parfois, et seuls les gens à l'esprit tordu voyaient de la duplicité dans son honnêteté foncière.
« Il a passé un moment à Caïrienne, »
dit Fail, et Caliandre interprète ça comme ça lui chantait.
« Grâce à la protection d'Anoura, nous pouvons parler à cœur ouvert. À l'évidence, tu ne souhaites pas retourner tout de suite à Bétal. Ton serment à Perrine et celui qu'il t'a prêté en retour, ne suffisent-ils pas à le lier à toi ?»
Dans le Sud, certains avaient une conception très particulière de la vassalité. Berylain va se placer sur la droite de Fail, et Anoura prit position sur sa gauche. Ainsi, Aliandre se retrouva face à trois adversaires. Étonné qu'Anoura lui prête main forte sans savoir quel était son plan, mais sans nul doute, la sœur devait avoir une idée derrière la tête, Fail ne fut pas surprise du comportement de Berylain. Une phrase ironique de trop pouvait tout gâcher, en particulier au sujet des compétences de Perrine dans le grand jeu. Mais la première dame ne commettrait pas cette erreur. En un sens, c'était hautement agaçant. Au début, Fail méprisait Berylain. Elle la détestait toujours de toute son âme, mais une forme fragile de respect avait remplacé le mépris. Cette femme savait quand il convenait de renoncer à ses petits jeux. S'il n'y avait pas eu Perrine, Fail aurait tout à fait pu la trouver sympathique. Histoire de conjurer cette pensée détestable, elle s'imagina en train de tondre à zéro la boule de la première dame. Une garce et une traînée. Oui, une mauvaise femme qui ne devait pas troubler sa concentration en un moment crucial. Dévisageant chacune des femmes qui lui faisaient face, Aliandre ne trahissait aucun signe de nervosité. Elle reprit sa coupe, but une gorgée, puis parla d'un ton presque détaché, comme si ses propos n'étaient pas si importants que ça.
« J'ai l'intention d'honorer mon serment, bien entendu. Mais comprenez que j'attendais plus que cela. Quand ton mari sera parti, Dame Fail, je serai dans la même situation qu'avant son arrivée. Ou dans de pires conditions, sauf si je reçois de l'aide du Seigneur Dragon. Que son nom soit béni par la lumière. Le prophète peut mettre à sac Bétal, voire Jeanna, comme il a dévasté Samara. Et je ne pourrai rien faire pour l'arrêter. Et si quelqu'un apprend quel serment j'ai prêté, le prophète prétend être venu nous montrer comment servir le dragon réincarné. Mais c'est lui qui détermine le chemin à suivre. Et je doute qu'il soit content que quelqu'un en ait trouvé un autre. Je me félicite que tu comptes tenir parole. »
Lâcha Fail, glacial.
« Si tu attends davantage de mon mari, peut-être devrais-tu lui en donner plus. Par exemple, en l'accompagnant quand il partira vers le sud pour rencontrer le prophète. Bien sûr, tu voudras avoir une escorte. Mais je te suggère de te limiter au nombre de gardes ailés qui veillent sur la première dame. Si on s'asseyait à présent. »
Prenant le siège laissé libre par Perrine, Fail fit signe à Anoura et à Berylain de prendre place sur ses flancs, puis elle invita Aliandre à s'asseoir à son tour. La reine obéit, toujours très calme, mais de plus en plus intriguée.
« Pourquoi ferais-je une chose pareille ? »
s'exclama-t-elle.
« Dame Fail, les fils de la lumière saisiront tous les prétextes pour dévaster un peu plus le Géaldan. De plus, le roi Aelron pourrait lui aussi envoyer une armée dans mon pays. Ce que tu demandes est impossible. » « C'est l'épouse de ton suzerain qui le demande, Aliandre. »
rappela Fail. Aliandre écarquilla les yeux à tel point qu'on eût dit des soucoupes. Cherchant du secours chez Anoura, elle eut droit à un splendide masque d'Aes Sedai.
« Oui, bien sûr. Je ferai ce que tu désires, madame. »
Cachant son soulagement, Feil hocha gracieusement la tête. Pour être honnête, elle s'était attendue à plus de résistance. Mais voir Aliandre prêter serment sans vraiment mesurer ce que ça signifiait, sinon elle n'aurait pas précisé qu'elle escomptait tenir sa parole, l'avait convaincu qu'il ne fallait pas laisser cette femme en arrière. De l'avis général, Aliandre avait négocié avec Masséma, en lui cédant sur tout. Progressivement, sans doute, et faute de meilleurs choix, mais la soumission pouvait devenir une habitude. De retour à Bétal, sans changement visible, combien de temps lui faudrait-il pour décider de prévenir Masséma ? Après lui avoir fait sentir le poids de son serment, Feil décida de relâcher un peu la pression sur la reine.
« Je suis contente que tu viennes avec nous, »
dit-elle d'un ton chaleureux. Et c'était sincère.
« Mon mari n'oublie pas ceux qui lui rendent service. Dans cet ordre d'idées, tu pourrais écrire à tes nobles pour leur dire qu'un homme, au sud, brandit l'étendard de Manéthéren. »
Bérélaine en tressaillit de surprise, et Anoura alla jusqu'à cligner des yeux.
« Madame, »
dit Aliandre,
« la moitié de ces nobles s'empresserait de transmettre la nouvelle au prophète. Ils crèvent de peur face à lui. Et la lumière seule sait de quoi il est capable. Voilà pourquoi tu vas également écrire à Masséma, pour lui dire que tu as levé une petite armée, pour régler toi-même le compte du nostalgique de Manéthéren. Après tout, le prophète du Seigneur Dragon est trop éminent pour s'occuper de Pécadilles pareilles.
Excellent,
fit Anoura.
Dans cet embrouillamini, plus personne ne s'y retrouvera.
Bérélaine approuva d'un rire de gorge. Qu'elle soit maudite.
Madame,
dit Aliandre.
J'ai fait remarquer que le seigneur Perrine est un homme hors du commun. Puis-je ajouter que sa femme n'a rien à lui envier ?
Feil s'efforça de ne pas rayonner trop visiblement. À présent, elle allait devoir envoyer un message à ses agents infiltrés à Bétal. En un sens, elle le regrettait. Fournir des explications à Perrine aurait été très ardu. Mais il n'aurait sûrement pas gardé son calme si elle avait enlevé la reine du Gueldan. La plupart des gardes ailés étaient rassemblés à la lisière du camp, autour de 10 de leurs camarades à cheval. L'absence de lance indiquait qu'il s'agissait d'éclaireurs. Les fantassins se poussaient des coudes, essayant d'approcher. Perrine crut entendre de nouveau le tonnerre, mais si loin que ça aurait pu être un bourdonnement d'insectes. Alors qu'il se préparait à jouer lui aussi des coudes, Galen beugla.
« Écartez-vous, tas de chiens galeux !»
Les hommes tournèrent la tête et obéirent aussitôt, ouvrant un passage dans leur masse compacte. Pensif, Perrine se demanda ce qui arriverait, s'il traitait ses gars de deux rivières de chiens galeux. Très probablement, ça lui vaudrait un bon coup de poing sur le nez. Un truc à essayer. Nourel et les autres officiers étaient avec les éclaireurs, ainsi que sept prisonniers à pied, les mains liées derrière le dos et une corde autour du cou. Des hommes rageurs et apeurés à la fois. Quant à leur odeur, eh bien, ils sentaient surtout la fumée. D'ailleurs, plusieurs éclaireurs avaient de la suie sur les joues. Un ou deux semblant avoir aussi récolté des brûlures. Également présent, Aram observait les prisonniers d'un air sombre. Galen se campa sur ses jambes, les poings sur les hanches, et, avec un seul œil, foudroya tout ce petit monde du regard, aussi bien que lui fait quelqu'un qui en avait deux.
« Qu'est-il arrivé ? Mes éclaireurs sont censés rapporter des informations, pas des types en haillons.
Seigneur, écoutez le rapport d'Ortis, »
dit Nourel.
« Il était présent. Sergent Ortis ?»
Un soldat d'âge moyen se laissa glisser de sa selle et salua. Une main pressée sur le cœur. Juste sous le bord de son casque dépourvu d'ornement, une brûlure lui barrait le front. Sur une joue, il arborait une balafre qui atteignait sa bouche.
« Seigneur Galen, Seigneur Aibara, nous sommes tombés sur ces mangeurs de navets à environ 2 lieues à l'ouest du camp. Ils incendiaient une ferme, avec ses occupants à l'intérieur. Une femme a tenté de sortir par une fenêtre, et un de ses chiens l'a forcée à reculer à coups de massue. Connaissant la façon de voir les choses du Seigneur Aibara, nous sommes intervenus. Trop tard pour sauver quelqu'un, mais à temps pour capturer ces vermines. Les autres ont filé.
Les gens sont souvent tentés de retourner en douce vers les ténèbres,
dit un des prisonniers.
Il faut leur rappeler que ça coûte cher.
Grand et mince, l'air assuré, il parlait comme un homme bien éduqué. Mais sa veste était aussi crasseuse que celle des autres, et il ne devait pas s'être rasé depuis 3 ou 4 jours, ni lavé. Les mains liées, une longe autour du cou, il défiait pourtant ses geôliers du regard.
« Vos soldats ne m'impressionnent pas »
cracha-t-il.
« Le prophète du Seigneur Dragon, que son nom soit béni par la lumière, a détruit des armées bien plus imposantes que votre ramassis de miteux. Vous pouvez nous tuer, mais nous serons vengés quand le prophète vous écrasera comme la vermine que vous êtes. Aucun de vous ne nous survivra longtemps, car il triomphera dans le sang et le feu !»
ces derniers mots déclamés d'un ton triomphant, avec le dos bien droit. Il y eut des murmures dans les rangs. Tous les soldats savaient que Massema avait effectivement écrasé des forces bien plus importantes.
« Qu'on les pende !»
dit Perrine. De nouveau, il crut entendre le tonnerre. Ayant donné l'ordre, il se força à assister aux pendaisons. Et malgré les murmures, il n'y eut pas pénurie de volontaires pour exécuter la sentence. Alors qu'on passait leur longe par-dessus la branche d'un arbre, certains prisonniers éclatèrent en sanglots. Un ancien obèse, ça se voyait à la façon dont pendaient ses bajoux, cria qu'il se repentait et qu'il servirait fidèlement n'importe quel nouveau maître. Un type chauve, apparemment aussi solide que l'Amguin, gémit et pleurnicha, jusqu'à ce que la corde lui broie la glotte. L'homme à la voix éduquée ne se débattit pas, même quand le nœud coulant se referma sur son cou. Et jusqu'à la fin, son regard brilla de défi.
« Au moins, l'un d'eux est mort dignement !»
dit Galen lorsque ce fut terminé. Il regarda les étranges fruits qui pendaient désormais aux arbres, comme s'il regrettait de ne pas avoir rencontré plus de résistance.
« Si ces gens servaient les ténèbres !»
commença Aram. Il hésita.
« Seigneur Perrine, crois-tu que le dragon réincarné appauvrait tout ça ?»
Perrine sursauta et dévisagea le Zingaro, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles.
« Aram, as-tu entendu le récit de leur crime ? Rand les aurait pendus de ses propres mains. »
« Oui, voilà ce qu'il aurait fait. » Enfin, Perrine l'espérait. Résolu à unifier les nations avant l'ultime bataille, le dragon réincarné ne se souciait pas du prix à payer pour obtenir ce résultat. Quand retentirent des roulements de tonnerre assez proches pour que tout le monde les entende, toutes les têtes se tournèrent dans cette direction. Puis un vent se leva, bien différent des inoffensives brises qui soufflaient jusque-là. Enfin, des éclairs zébrèrent le ciel, portant son nuage. Dans le camp des lanciers, des chevaux hennirent et ruèrent dans leurs liens. Le tonnerre se fit presque assourdissant. Les éclairs se déchaînèrent, et de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, alors qu'un soleil de feu brillait encore dans le ciel. Touché par une de ces gouttes, Perrine s'essuya le front, puis regarda ses doigts mouillés avec une sorte de sidération. L'orage ne s'attarda pas, le tonnerre et les éclairs dérivant vers l'est. Le sol desséché ayant absorbé la pluie, et le soleil continuant d'incendier le ciel, plus rien n'indiquait qu'il était arrivé quelque chose, à part le vacarme qui s'éloignait et les éclairs qui semblaient le suivre. Les soldats se regardèrent, désorientés. Non sans effort, Galen lâcha la poignée de son épée.
« Ce... eh bien, ça ne peut pas être l'œuvre du ténébreux, »
dit Aram.
« Pas vrai ?»
De fait, nul n'avait jamais vu un orage pareil, mais...
« Ça signifie que le climat change, n'est-ce pas, Seigneur Perrine ? Les choses vont rentrer dans l'ordre. »
Perrine voulut rappeler aux Zingaro de ne pas l'appeler « Seigneur », mais il se ravisa, las d'essayer de renverser des montagnes.
« Je ne sais pas. »
« Qu'avait donc dit Gaul récemment ?»«
Tout change, Aram. Absolument tout. »
Peut-être, mais il n'avait jamais pensé qu'il serait lui aussi obligé de changer.